Bon, bah, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence de Bernard Stiegler et cette discussion avec Philippe Mérieux qu'ils ont entamée il y a déjà quelques années. Donc on est ravis de pouvoir prolonger la discussion. Alors dans l'ordre des choses, c'est Madame Guerne-Garzi qui va ouvrir officiellement la matinée. Puis Pablo Buznik pour notre thème 3 du CIRNEF va présenter le CIRNEF et ce thème qui travaille autour des questions du savoir. Ensuite, je me donnerai un tout petit peu la parole pour présenter Bernard Stiegler et Thierry Piau, directeur du laboratoire, présentera Philippe Mérieux. Et ensuite, donc, nous aurons une conférence de Bernard Stiegler, une discussion avec Philippe Mérieux, qui sera un petit peu écourtée, en tout cas le temps avec Bernard Stiegler, parce qu'il doit partir. Il a un impératif parisien, donc prendre un train un peu plus tôt. Donc à 11h20, Bernard partira. Nous, on essaiera de continuer la discussion jusqu'à midi à peu près. Voilà, comme on a prévu la matinée. Donc je laisse la parole à Catherine.
Merci, Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. La matinée... Alors, ce n'est pas le titre qui est dans notre dos. Le titre va certainement déboucher sur des développements peut-être inattendus. Le titre affiché, c'est « L'avenir du savoir et l'avenir du travail ». On va dire tout un programme qui donne du sens au métier que nous exerçons toutes et tous, et avec un sous-titre sur le rôle de l'école et la formation des professeurs. Alors je voudrais tout d'abord vous dire, messieurs, combien l'ESPE est honoré par votre présence aujourd'hui. Je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir accepté de présenter aujourd'hui votre vision du rôle de l'école en vous penchant sur la problématique de la formation des enseignants. Alors, dans une ESPE, cette question de la formation des enseignants, elle est bien sûr au cœur de nos activités quotidiennes. Elle est également au cœur du renouvellement de ces activités, puisque cette formation des enseignants et des personnels d'éducation, d'une manière générale, est sans cesse en évolution. Elle est en évolution parce que, bien entendu, la société évolue, les générations évoluent, et aussi parce que les politiques et les priorités éducatives évoluent, c'est-à-dire que nos transformations sont engendrées, on va le dire, par des causes multiples et je dirais de nature assez différentes les unes des autres. Alors je vais faire le pari que seront abordées pendant la matinée plutôt des raisons de fond de ces transformations, des raisons de fond de penser les évolutions de l'école qui touchent, je l'imagine, aux nouvelles modalités de la connaissance, à la transformation incessante du rapport au savoir de génération en génération, voire au cœur d'une même génération, ainsi que liées aux transformations du monde du travail et aux transformations des métiers. Les métiers aujourd'hui, ils apparaissent, ils disparaissent à un rythme relativement effréné. Non seulement on est invité à exercer plusieurs métiers dans une carrière, mais en plus on peut devenir expert dans un métier qui disparaît presque du jour au lendemain et notre expertise devient tout d'un coup inutile. Je trouve que c'est assez traumatisant d'une manière générale et ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose en matière de formation et d'éducation d'une manière générale. Alors, il est de la responsabilité de tous les acteurs de l'éducation de penser ensemble ces transformations avec recul, avec discernement, avec esprit critique, faute de devoir les subir relativement aveuglément et sans cesse s'y adapter également aveuglément. J'emploie ce terme qui a été employé hier dans les échanges pendant la soutenance de thèse de Benjamin. Et s'adapter aveuglément est un risque majeur, je pense, puisqu'on ne mesure pas dans ces cas-là ni les enjeux, ni les conséquences des transformations et de nos actions. Donc merci à vous deux, et puis à tous les contributeurs dans la journée, dans la matinée, de nous donner l'occasion de ce partage, de cette prise de recul sur ces enjeux majeurs concernant le savoir, l'éducation et le travail. Je voudrais remercier aussi chaleureusement Benjamin d'avoir saisi l'opportunité de la soutenance de sa thèse qui a eu lieu hier, pour ceux qui ne le sauraient pas, et donc d'avoir saisi cette opportunité pour organiser cette matinée et d'avoir réussi à convaincre messieurs Stigler et Mérieux d'échanger avec nous aujourd'hui, donc d'accepter cet exercice de conférence et d'échange. Je vous souhaite à tous une très enrichissante et stimulante matinée.
Bien, je vais rebondir aussi en remerciant Benjamin, puisque pour cette journée, pour cette rencontre, en fait, cette rencontre entre Bernard Stigler, Philippe Mérieux, vous, nous, l'ESP, donc, comme l'a présenté Catherine, et puis donc, le CIRNEF, dont je me fais porte-parole ici. Merci quand même, Benjamin, puisqu'en effet, cette journée émerge de ton initiative un petit peu pure, quelque part. Enfin, journée qui n'est pas si institutionnalisée que ça, en fait. C'est vraiment dans la continuité de l'excellente thèse qui a été soutenue hier. Et donc, je tiens quand même encore une fois à le souligner, à te remercier et à te féliciter un peu plus publiquement. Et puis, merci évidemment à nos invités d'avoir accepté donc ce temps d'échange. Cette rencontre se fait aussi avec le CIRNET, donc le laboratoire de sciences d'éducation normand que dirige Thierry Piau à ma gauche. Et peut-être un petit peu plus spécifiquement, donc une des équipes, celle que je représente ici, et celle justement dans laquelle tu travailles aussi, Benjamin, l'équipe, ce qu'on appelle le thème 3, un thème qui se centre sur l'étude des savoirs. Les savoirs, leur élaboration, leur diffusion, leur statut, leur appropriation. On s'intéresse dans cette équipe à la vie des savoirs dans les disciplines, au travers des disciplines, au-delà des disciplines, dans la vie des savoirs dans des œuvres, dans des institutions, dans des organisations, et puis aussi quand même dans les mains des gens. Dans les mains des acteurs, dans les mains des individus qui parfois sont amenés, mais comme nous tous, à partager ce savoir, ce savoir. Et ce qui nous a fait réfléchir sur un vieux concept juridique, et qui existe déjà aussi, qui n'est pas tout jeune non plus dans le champ de l'éducation, c'est le concept de dévolution. Dévolution, de manière un peu stricte, le concept apparaît en didactique des mathématiques, hein, sous la plume de Guy Brousseau, dévoluer le problème, c'est-à-dire finalement littéralement faire accepter les responsabilités, transmettre les responsabilités, transposer les responsabilités de l'apprentissage, de la construction d'un problème, de la construction d'un savoir, le transmettre à ceux à qui on s'adresse, des enfants, des apprenants, des élèves, des formés. Il nous a semblé que les travaux de Bernard Stigler, particulièrement, et les réflexions aussi de Philippe Mérieux, pouvaient nous éclairer, peut-être en effet, comme tu disais Catherine, à une échelle un peu plus grande sur ce processus qu'on va retrouver dans nos classes ou dans nos instituts, nos écoles de formation, sur les enjeux contemporains, les enjeux sociaux, les enjeux politiques, les enjeux peut-être anthropologiques, en fait, de ce processus. Voilà, donc quelques enjeux et puis peut-être, comme on voit, quelques obstacles aussi à ce processus. Donc merci beaucoup et je vais laisser donc la parole à Benjamin pour présenter Bernard Stigler.
Merci. Alors, Bernard Stigler, vous le connaissez tous, au moins de nom, vous connaissez certainement ses travaux, ses interventions aussi publiques qui sont très nombreuses. Donc c'est un philosophe, un chercheur, c'est aussi un directeur d'institution, de l'INA, de l'IRCAM, et aujourd'hui de l'IRI, c'est-à-dire l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pompidou, qui s'intéresse aux évolutions, des mutations des technologies contemporaines. Et donc Bernard Stigler est considéré comme l'un des spécialistes de ces mutations, mais je dirais que la spécificité de son travail va bien au-delà de cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui produit un diagnostic extrêmement précis et sans concession de la situation contemporaine, et notamment de la société, on va dire, de consommation, pour le dire de façon globale. Et c'est quelqu'un qui essaye de proposer, à la fois théoriquement et pratiquement, des voies pour envisager non pas simplement un devenir adaptatif, mais un avenir. Voilà, je dirais que c'est un petit peu ce qui ramasse la réflexion de Bernard Stigler. C'est plus d'une trentaine de livres. C'est énormément de conférences que vous pouvez regarder en ligne, notamment via le site d'Ars Industrialis dont il est le président. Et donc ses réflexions sur le savoir, et notamment ses réflexions sur le rapport entre le savoir et le travail, amène finalement à une logique de société dite de contribution, dont il aura certainement l'occasion de nous parler tout à l'heure, avec de grands projets, notamment à Pleine Commune, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis. Et donc pour nos métiers du savoir, la réflexion entre le savoir et le travail, son avenir et leur rapport, ça peut vraiment nous donner des pistes à la fois très précises, dans des situations très précises d'enseignement, et peut-être des pistes plus larges du point de vue d'un établissement, des pistes plus larges du point de vue d'un département, des pistes plus larges du point de vue d'une académie, et bien sûr des pistes plus larges du point de vue d'une nation. Et donc je dirais que l'œuvre de Bernard Stiegler nous permet en tout cas de réfléchir à ces questions. Et nous avons la chance, je dirais, que Bernard Stiegler se soit associé avec Philippe Mérieux il y a un certain nombre d'années pour à la fois produire des réflexions communes et des ouvrages communs. L'un des ouvrages qui est disponible un petit peu partout, c'est « L'école numérique et la société qui vient », ouvrage très intéressant, très accessible, qui nous permet vraiment d'avoir des pistes très, très intéressantes justement sur ces questions. Deuxième ouvrage, alors celui-ci, strictement de Bernard Stiegler, mais en collaboration avec un monsieur qui s'appelle Ariel Kirou, qui parle justement de l'avenir du travail. L'emploi est mort, vive le travail. C'est un manifeste, je dirais, c'est une discussion manifeste dans lequel on peut trouver des réflexions particulièrement passionnantes. Et puis un ouvrage aussi qui est coordonné et écrit par Philippe Mérieux, dans lequel il donne la parole à de nombreuses personnalités, dont Bernard Stiegler, et dont vous avez une partie, un chapitre de cet ouvrage, Le plaisir d'apprendre, qui est un des grands projets de Philippe Mérieux, dans lequel vous avez donc les propositions de Bernard Stiegler sur ces questions. Et donc on est vraiment particulièrement ravis à l'ESPE de Caen de pouvoir continuer la réflexion de ces deux auteurs majeurs de l'éducation et du champ de la philosophie, avec la possibilité d'avoir une captation, donc c'est-à-dire que les personnes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, un mardi matin, bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Je pense notamment aux enseignants du premier degré qui ne pouvaient absolument pas venir. Certains enseignants du second degré peuvent venir parce que parfois dans leur emploi du temps, c'est possible. Et donc on a fait en sorte que l'appel, en tout cas aux personnes, soit à la fois fait pour, je dirais, des formateurs, des étudiants, des enseignants, des gens de tous horizons qui sont intéressés par ces questions et qui aimeraient avoir... pouvoir prolonger la réflexion avec nous sur ce domaine. Voilà. Donc je passe la main à Thierry pour une présentation de Philippe Mérieux.
Alors, une présentation de Philippe Mérieux, mais qui dans cette enceinte ne pourrait ne pas connaître Philippe Mérieux, largement impliqué par ses analyses, par sa pensée critique, dans tous les débats autour de l'éducation en France, j'allais dire depuis une trentaine d'années. Qui n'a pas lu au moins un des ouvrages de Philippe Mérieux? Moi, j'ai découvert Philippe Mérieux, jeune militant d'éducation populaire dans les années 80, et... je peux dire que si je suis aujourd'hui à cette tribune, c'est sans doute parce que j'étais animé, parce que j'ai trouvé des mots qui traduisaient la pensée confuse d'un jeune instituteur dans les années 80. Donc Philippe Mérieux, c'est une pensée critique, c'est une voix qui fait autorité pour apporter un éclairage sur ces problématiques éducatives. Je rappelle que Philippe, c'est aussi quelqu'un qui a un CAP d'instituteur, quelqu'un qui a enseigné le français en collège, qui a enseigné la philosophie en lycée, avec des fonctions, direction de l'INRP, direction de l'ESPE de Lyon, au conseil général, au conseil régional, il a été élu sur le secteur de FTLV, c'est ça, Philippe. Donc voilà. Et puis ses ouvrages, continuent d'être parmi ceux qui sont les plus lus en France pour tout ce qui concerne les problématiques pédagogiques. Ils sont lus par de très nombreux étudiants. Donc voilà. Et je suis très heureux que Philippe, dont la pensée, s'accorde bien pour discuter avec la pensée de Bernard Stiegler. Et je pense qu'on a une chance immense aujourd'hui. Nous avons une chance immense de pouvoir les écouter. J'en dis pas plus, cher Philippe. Et on peut continuer et lancer les opérations.
Merci à vous tous d'abord d'être présents. J'en suis très, très heureux. Merci à Thierry Piot de son invitation et à Benjamin Delattre, avec lequel Benjamin, nous avons eu une discussion il y a 7 ans, qui a abouti à ce travail hier, présenté hier, qui est un travail extrêmement intéressant et stimulant. Et puis, merci de m'avoir donné l'occasion de reprendre un dialogue en fait que nous avons engagé avec Philippe Mérieux il y a plus de 10 ans. Je crois qu'il y a à peu près 12 ans, il me semble, voilà, dans un contexte assez différent. Il y a 12 ans, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Par exemple, le calcul, nous n'en voyions pas encore peut-être tout à fait l'enjeu. Je dis cela parce que, je précise à Madame la directrice de l'ESPE que c'est une citation, ça c'est pas le titre évidemment, mon titre c'est toujours le même, c'est l'avenir du savoir, mais la citation c'est le manifeste communiste de Marx et Engels, qui donc s'adresse à ce qu'ils appellent la bourgeoisie à l'époque, en disant à la bourgeoisie, c'est-à-dire aux capitalistes, comme ils disent aussi, vous périrez dans les eaux glacées du calcul. Il se trouve qu'à l'époque, le calcul, bon, c'est ce que l'on appréhende, je dirais, quand on étudie l'économie politique, par exemple, quand on lit Adam Smith, Ricardo, des gens comme ça, quand on les critique. C'est ce que fait Marx. Dans la vie quotidienne, le calcul n'est pas... Il est présent, bien entendu. Il est présent, par exemple, du fait que les gens savent compter leur monnaie. Clarisse Ehrenschmidt a montré que l'apparition du numéraire a eu des conséquences extrêmement importantes et que les gens ont appris à compter, même sans aller à l'école, parce qu'il fallait payer, tout simplement. Donc, ils ne savaient pas forcément très, très bien compter, mais ils savaient, en tout cas, récupérer leur monnaie, etc. C'est ce qu'elle a montré dans les trois écritures. Mais en même temps, cette présence du calcul qui apparaît avec la monnaie, sonnante et trébuchante, c'est-à-dire avec le fait que les gens ont dans leur poche, ou dans leur bourse, comme on disait autrefois, du numéraire, de la monnaie, fait que le calcul s'introduit dans les échanges, à cette époque-là encore, dans un registre très limité, que décrit très bien, par exemple, Fernand Braudel dans son Histoire du capitalisme. Marx et Engels, eux, voient venir le calcul, ils voient que le calcul a un grand avenir. Ils le voient d'abord dans le fait que l'organisation des manufactures, par exemple, telle que Andrew Yule, hein, en 1836, les étudie, conduisent à la production de ce que Yule lui-même appelle le grand automate. Andrew Yule dit que les manufactures vont devenir des usines qui sont d'immenses automates. Marx et Engels l'ont lu et ils ont compris une chose extrêmement importante, c'est que le calcul, c'est ce qui se substitue au savoir de l'ouvrier. Alors ils le savent sans le savoir comme Frédéric Taylor, par exemple, va le donner à savoir. Frédéric Taylor qui va d'ailleurs s'appuyer sur les technologies dont parlait Benjamin Delattre hier dans sa thèse, qui sont des technologies d'analyse du mouvement, qui relève de ce que j'appelle moi la grammatisation, dont Benjamin Delattre a montré qu'elles sont très importantes dans l'histoire de la conscience du corps, notamment dans le champ de l'éducation physique et sportive, voilà, mais dans la médecine évidemment, et en fait dans tout. Ces technologies de calcul, Marx et Engels les voient arriver, sans mesurer certainement tout à fait à quel point elles vont pouvoir venir nous bouleverser, nous, c'est-à-dire nous, en 2019, 12 ans après, je crois, le livre qu'avec Philippe Mérieux et Denis Cambouchner et deux autres amis, nous avions tenté de faire sur l'école et la société qui vient dans le numérique, avec le numérique. Numérique voulant dire nombre et calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous périrez dans les eaux glacées du calcul. Qui est ce vous? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, d'après Marx et Engels, qui sont des dialecticiens, c'est le capital, en tant qu'il calcule et qu'il ne fait que calculer. Ce que Max Weber a discuté, non, il ne fait pas que calculer. Il investit aussi, au sens où il s'investit, y compris spirituellement. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement important. En tout cas, pour Marx et Engels, le capital, c'est avant tout ce qui calcule. C'est avant tout ce qui transforme toute relation humaine en valeur d'usage et elle-même transforme en valeur d'échange, c'est-à-dire en calcul, sur un marché qui lui-même calcule. Et quand Marx et Engels disent « vous périrez », ils s'adressent donc aux capitalistes parce qu'ils croient, eux, que ce qu'ils appellent la puissance du négatif, c'est-à-dire le prolétariat, va renverser tout cela dialectiquement. Peut-être que nous reparlerons de cette question tout à l'heure. Je n'y reviendrai pas, mais ça mériterait d'y revenir. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, ce « vous » s'adresse à nous. Nous périrons tous dans les eaux glacées du calcul si nous ne faisons rien pour dépasser le calcul. Ce texte, cette phrase, vous périrez dans les eaux du calcul, enchaîne sur une autre phrase qui parle de l'égoïsme de la bourgeoisie. Donc le calcul, c'est le calcul égoïste. C'est donc une qualification morale. Il y a une qualification morale par Marx et Engels du capital qui consiste à dire que le capital est fondamentalement égoïste. Après Marx et Engels, ça c'est 1848, donc 30 ans plus tard environ, Friedrich Nietzsche pose la question de ce qu'il va appeler, enfin un petit peu plus tard, en 1880, c'est-à-dire 33 ou 34 ans plus tard, Friedrich Nietzsche parle du nihilisme, dont je ne vais pas faire la genèse parce que c'est un sujet extrêmement complexe, mais dont il présente la réalisation en 1880, entre 1880 et 1885, disons, comme étant l'accomplissement du nihilisme comme calcul. C'est-à-dire réduction de toute valeur à un équivalent qui fait qu'elle ne vaut plus rien. Donc il n'y a plus d'extraordinaire, il n'y a plus rien qui ne soit pas calculable. Robert Musil reprendra ça dans L'homme sans qualité. L'homme sans qualité que j'ai relu récemment, que j'ai un peu commenté dans un ouvrage récent, et qui est d'une incroyable actualité. Quand on le lit aujourd'hui, ce texte de 1931, je ne me souviens plus exactement, décrit en fait ce qui nous arrive. Qui nous arrive avec quoi? Avec les smartphones et les plateformes. Qui font que tout est calculable, et que d'ailleurs certains disent, les profs, on n'en a plus besoin. Bon, c'est une antienne, un stéréotype sur lequel je ne vais pas revenir avec vous, parce que c'est de la très très grosse bêtise. Mais par contre, ce que je voudrais faire, c'est, sans revenir sur cette très très grosse bêtise, cette inanité, comme on dit parfois, cela dit, la bêtise, c'est très important. Nietzsche dit le travail de la pensée, c'est de nuire à la bêtise. Mais pour y nuire, il faut la connaître. Donc, il faut l'étudier. Alors, bon, je ferme cette parenthèse. En tout cas, cette bêtise qui touche des gens au plus haut sommet des plus grands États. Hein. Parlons très clairement, nous accueillerons, vous accueillerez M. Trump dans 2 jours. Bon, bienvenue. Si je citais Friedrich Nietzsche, c'est parce que Friedrich Nietzsche a fait une généalogie de la morale, donc où il a essayé de montrer qu'il fallait peut-être aborder la question morale un peu différemment du modèle initial, disons, de ce qu'on appelle la métaphysique occidentale, et qu'il fallait peut-être aborder la morale comme étant à partir du vivant, à partir de la vie. Moi-même, j'ai repris tout cela, mais en m'appuyant à la fois sur Nietzsche et en le critiquant, et finalement en essayant de montrer qu'il fallait aller un peu au-delà et de Marx et de Nietzsche pour faire une nouvelle généalogie de la morale à partir de la théorie de la néganthropie. C'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, quand on lit « Vous périrez dans les eaux glacées du calcul », on pourrait dire « c'est ce que dit, par exemple, Clausius, ou avant lui Thompson, qui en 1852 développe la théorie de la mort thermique de l'univers, où il dit tout périra par la mort thermique de l'univers. La mort thermique de l'univers, bon, c'est ce qui apparaît après les travaux de Sadi Carnot, l'ingénieur et physicien français, qui montre qu'une machine à vapeur perd inéluctablement son énergie et que c'est le cas parce que l'énergie, c'est ce qui se dissémine inéluctablement. Je ne vais pas développer longuement sur ce point. Je voudrais juste rappeler que, en passant par donc Clausius, Boltzmann et un certain nombre d'autres, dont d'ailleurs Bergson, qu'il ne faut pas oublier de lire sur ces sujets, Bergson a été extra lucide, Sigmund Freud aussi, et Edwin Hubble, on en arrive à dire finalement au XXe siècle, en physique, en tout cas Einstein le dit, la loi la plus englobante de tout l'univers aujourd'hui, c'est l'entropie. C'est la loi de l'entropie. Il faut savoir que cette loi de l'entropie, deuxième principe de la thermodynamique, tel que donc le formule Thomson, eh bien, est rejetée par Marx et Engels. Alors Marx, on n'en a pas la trace écrite, mais on le sait. Engels, c'est tout à fait clair, c'est dans La dialectique de la nature, 1881 ou 2, presque contemporaine d'ailleurs du Gai Savoir de Nietzsche. Engels dit, l'entropie, c'est une illusion idéologique, parce que ce n'est pas dialectisable. Et en effet, ça n'est pas dialectisable. C'est exactement ce que dit Thomson. Et donc, il n'y a pas d'échappatoire à l'entropie. Et donc, Engels et Marx rejettent cela en disant, mais si, il y a forcément une échappatoire. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a de nombreux débats sur la mort thermique de l'univers avec énormément de gens qui cherchent des échappatoires. Parce que c'est absolument angoissant. Jamais, dans aucune société, on a pu imaginer que finalement, l'univers lui-même pouvait disparaître. C'est très insupportable pour Marx et Engels, et c'est aussi très insupportable pour Nietzsche, dont j'ai essayé de montrer qu'il en a fait une crise morale. J'ai une interprétation de Zarathoustra de Nietzsche, qui est que lorsque Zarathoustra, qui est une figure identificatoire de Nietzsche lui-même, lorsque Zarathoustra, au début de Zarathoustra, se présente comme étant malade, c'est-à-dire accablé, il n'arrive pas à se lever, il est totalement découragé. Ses animaux lui disent « mais lève-toi » et tout ça. Non. C'est Nietzsche qui est malade. Et de quoi est-ce qu'il est malade, Nietzsche ? De la mort thermique de l'univers. Il a lu, et ça s'est prouvé aujourd'hui très précisément par Paolo Di Iorio, avec qui je ne suis pas d'accord par ailleurs sur son interprétation de tout cela, mais Paolo Di Iorio a fait un énorme travail sur la bibliothèque de Nietzsche. Et il a montré que Nietzsche, entre la fin des années 70 et Zarathoustra, ne lit que des textes quasiment sur la mort thermique de l'univers, l'entropie, il est absolument obsédé par cela. Et finalement, il s'en remet comment ? En produisant une théorie qu'il appelle de l'éternel retour, plus exactement ce qu'il appelle la doctrine de l'éternel retour. Doctrine qui, selon moi, est en fait une anticipation de ce que dira en 1943-44 à Dublin Erwin Schrödinger, un physicien quantique, qui posera que, en tant que physicien, qui est aussi un philosophe et un mathématicien hors pair, hein, c'est un très très grand penseur, Schrödinger, qui posera que, voilà, moi en tant que physicien quantique, je veux comprendre ce que c'est que le vivant et jusqu'à quel point je peux penser le vivant avec la physique quantique et la physique en général, et qui posera en fin de compte, à travers une série de conférences que je vous recommande absolument de lire, ça se lit vite, c'est vraiment très très clair. Ça s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», c'est aux éditions Press Pocket, ça vaut 8 euros. Et qu'est-ce qu'il dit, Schrödinger ? C'est la première fois que c'est dit explicitement. C'était anticipé par Bergson. Et c'était anticipé d'une certaine manière par Sigmund Freud. Et à mon avis aussi par Nietzsche, mais sur un autre registre. Il dit « La loi de l'univers, c'est l'entropie, mais le vivant, c'est ce qui y échappe, localement et temporairement. » Alors, je vous parle de tout cela parce que nous vivons maintenant dans le calcul total, intégral et généralisé. Et nous sommes d'ailleurs enjoints de nous soumettre aux algorithmes, y compris pour enseigner n'importe quoi, avec des modèles qui se représentent le cerveau comme une machine à calculer, ce qui est absolument faux. N'importe quelle personne qui travaille vraiment en neurologie sait que ce n'est pas du tout une machine à calculer, un cerveau. Pas du tout. C'est une machine à arbitrer, mais c'est pas... Ça ne se réduit pas du tout au calcul. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et nous sommes à l'époque aussi où la désillusion, y compris des actionnaires de Facebook, qui voudraient virer leur patron, qui s'appelle Zuckerberg, qui a été reçu deux fois par le président de la République française, ce qui m'a choqué deux fois, mais la deuxième fois encore bien plus que la première, puisque voilà, la deuxième fois, il était mis en cause par ses propres actionnaires, M. Zuckerberg, et il a néanmoins été reçu à l'Elysée. Je trouve ça quand même vraiment très étrange. En tout cas, nous sommes à l'époque où nous vivons tous l'angoisse du rôle du smartphone, par exemple dans la vie de nos élèves, ou de nos enfants, ou de nos petits-enfants, mais aussi dans notre vie à nous. Parce que la plupart d'entre nous, en sortant d'ici, allons consulter notre smartphone. Et moi le premier en plus. Et nous savons intuitivement qu'il y a là quelque chose qui dysfonctionne très gravement. Alors nous le savons aussi depuis quelques mois ou quelques, de 2-3 ans qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Nous le savons aussi d'une manière eh bien, qui relève de la physique mathématique de l'entropie. Je dis cela parce que si vous allez voir par exemple sur le site de l'Université de Virginie et vous lisez un article d'un professeur qui s'appelle John Pals, qui est mathématicien, il a fait un article sur l'évolution des réseaux sociaux aux États-Unis en tant que mathématicien, c'est-à-dire en regardant ça comme mathématicien. Il dit que c'est une catastrophe. C'est la destruction des relations sociales. Et ça, c'est objectivable avec l'analyse mathématique. Je vous recommande, ça s'appelle le Social Networks and Entropy, je crois, l'article. Vous le trouverez très, très facilement sur Internet. Et Pfalz, ça s'écrit P-F-A-L-Z. Nous vivons par ailleurs dans une époque qui est caractérisée par le fait, par exemple, que tous les vendredis, des lycéens manifestent, un peu moins en France qu'ailleurs, en tout cas moins qu'en Allemagne et qu'en Belgique ou dans les pays du Nord. C'est dommage, je trouve. Je ne veux pas engager les jeunes gens des lycées à ne pas suivre leurs cours, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par contre, c'est que la mobilisation de la jeunesse est extrêmement importante. En tout cas, elle se mobilise, cette jeunesse, y compris en Australie et même aux États-Unis, partout dans le monde en fait. Elle se mobilise contre quoi ? Contre l'anthropocène. Mais l'anthropocène, moi je l'écris avec un E et sans H. L'anthropocène, c'est l'augmentation massive, généralisée et accélérée des taux d'entropie thermodynamique, biologique et informationnelle. Je vais y revenir plus précisément tout à l'heure. Par ailleurs, il y a moins d'un an, au mois de septembre, il y a 9 mois, au mois de septembre dernier, à la tribune de l'ONU à New York, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est adressé aux États en leur disant « Il faut que vous lisiez les documents que produit le GIEC, que produisent les scientifiques. Il faut absolument agir. » Et il a affirmé que, voilà, avec, on peut discuter l'échelle qu'il a proposée, mais l'ordre de grandeur, voilà, il a dit « Nous considérons avec le GIEC qu'il reste 12 ans pour changer la trajectoire, après c'est trop tard. C'est plus du tout, on ne peut plus rien changer du tout. » Bon, je ne vais pas vous énoncer les innombrables textes, appels, etc., de toutes sortes de gens du monde entier, mathématiciens, biologistes, chimistes, etc., qui disent la même chose, et que personne n'écoute. Sauf les lycéens, peut-être, qui manifestent. Voilà. Guterres a... Alors, il a dit aux États, prenez vos responsabilités, puis ensuite, il est venu à Davos, il a retenu le même discours aux grandes entreprises mondiales en leur disant « Mais vous périrez dans les eaux glacées du calcul. » Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire l'anthropocène ? Ça veut dire que l'application de la calculabilité à tout craint dans tous les domaines, dans toutes les relations, diminue les capacités négentropiques du vivant, humain et non humain. Qu'est-ce que c'est que les capacités négentropiques ? Alors le mot négentropie, on le trouve pour la première fois sous la plume d'un physicien français qui est Léon Brillouin. En fait, il reprend le concept de Schrödinger qui, lui, ne parlait pas de négentropie, mais d'entropie négative. Et en tout cas, la négentropie, c'est ce qui permet de différer l'entropie, soit d'une manière vivante, vitale. Un organisme, par exemple, vous et moi, en ce moment, nous sommes autour de 37 degrés, et quelle que soit la variation de température à l'extérieur, qu'on soit à moins 30 ou à plus 50, plus ou moins, nous sommes autour de 37 degrés. C'est ça qui nous permet de vivre. Si nous passons en dessous de 35 degrés ou si nous passons au-dessus de 42 degrés, nous sommes morts. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes des systèmes isothermiques qui sont capables de s'autoréguler pour maintenir une certaine température. Donc nous économisons l'énergie. Mais évidemment, comme le précise Schrödinger, pour ça, nous devons manger. Alors Schrödinger, à l'époque, dit, c'est tout début de la théorie de l'entropie négative, manger, c'est avaler de l'entropie négative. Bon, aujourd'hui, c'est très contesté, cette expression-là, mais c'est une image, en fait, qu'il emploie. Effectivement, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de protéines, nous avons besoin de toutes sortes de choses. Nous avons aussi besoin de ce qui nous permet d'assimiler tout cela, comme l'eau et l'oxygène. Bon. Et tout cela fait que nous sommes des systèmes qui, en permanence, entretiennent leur entropie négative, mais aussi produisent, par ailleurs, ce que, depuis une dizaine d'années, avec Francis Bailly, Giuseppe Longo et Maël Monteville, on appelle de l'anti-entropie, pas simplement de la négantropie. L'anti-entropie étant la capacité que l'on a à muter, c'est-à-dire à produire, par exemple, vous avez une variation dans le climat qui fait que tout à coup, il y a une baisse de température ou une augmentation de température de 5 degrés, eh bien, il faut une mutation de toutes les espèces pour qu'elles puissent alors, s'adapter, non, adopter la variation, c'est-à-dire s'en emparer et en faire leur avenir. Cet accident dans le devenir, une variation de température, il faut la transformer en nécessité de l'avenir. La mutation, par exemple, d'une espèce. J'ai beaucoup étudié ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup fait de préhistoire et de paléontologie en parallèle de mes travaux de philosophie. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à cette question de l'évolution des espèces. Et je vais vous en reparler un peu plus dans un instant. On nous dit aujourd'hui que d'ici à la fin de ce siècle, la température devrait augmenter de 5 degrés. On nous disait, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, ça devrait augmenter de 3 degrés, et c'est insupportable. Mais maintenant, c'est 5 degrés. Et comme vous l'avez entendu, d'ailleurs, il y a une semaine, des océanographes américains ont dit, on nous annonce une montée des eaux de 97 cm d'ici à la fin du siècle, et bien ça sera 2 mètres. En réalité, nous avons réactivé. Tout va dans le même sens. Tout va dans le sens de l'aggravation catastrophique des anticipations. Alors, que faire dans une situation comme celle-là? Eh bien, dans cette situation, il faut se demander qu'est-ce que c'est que l'entropie et la négantropie. Et par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ça au lycée? On n'enseigne pas, hein? Et pourquoi même est-ce qu'on n'en discute pas fondamentalement? C'est un sujet tabou aujourd'hui, l'entropie, la négantropie, quasiment. En tout cas, ce n'est pas exactement le cas, à vrai dire. Mais je vous donne un petit exemple. Il y a 3 ou 4 ans, un ami à moi qui s'appelle Cédric Matthews, qui est ingénieur de recherche au CNRS, qui fait des instruments scientifiques en biologie, me dit, j'aimerais vous inviter à l'Institut de physique et de biologie de Marseille-Lumini. Donc c'est un institut CNRS commun aux biologistes et aux physiciens. Pour que vous veniez parler des instruments scientifiques. Donc je dis OK, et ensuite il me demande mon titre, et je parle de l'entropie dans mon titre. Il me dit, ah non, il ne faut pas aborder ce sujet, c'est la bouteille à l'encre. Tout le monde s'écharpe sur une notion d'entropie, d'entropie, personne n'est d'accord, etc. Je réponds, mais personne n'est d'accord. C'est ça le savoir, c'est quand on n'est pas d'accord qu'on produit du savoir. Quand il n'y a que de l'accord, ce n'est plus du savoir, c'est de l'académisme. Voilà. Oui, il me dit, mais ça ne se passera pas bien. Donc je dis, moi, si vous ne voulez pas que j'en parle, je ne viens pas. Donc, si je viens, ce sera pour parler de ça. Et je viens, et finalement, je parle de cela. J'ai devant moi des physiciens, des biologistes, et aussi donc des mathématiciens. Et finalement, les gens sont absolument enchantés de ce que je raconte. Et dans la discussion, ils disent, enfin, on revient au vrai sujet. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que ce sujet fait l'objet de déni. Déjà, Nietzsche ne voulait pas entendre parler de l'entropie. Marx et Engels non plus. C'est un sujet extrêmement difficile. En plus, en termes de formalisme, avec énormément de malentendus, qui a été en plus réinvesti avec la théorie de l'information de Claude Shannon sur des bases qui sont conceptuellement très problématiques. Je ne rentrerai pas dans ce détail, mais si vous le souhaitez, nous pourrons en parler tout à l'heure. Toujours est-il que la théorie de l'entropie et de la négantropie, les formalismes qui ont été mis en théorie de l'information pour cela, ils sont utilisés par la Silicon Valley, bien entendu. Tout ça, ce sont des technologies qui sont mises en œuvre. Voilà. La robustesse d'un système d'information passe, par exemple, par la gestion de la théorie de l'entropie négative ou de la négantropie de Shannon ou d'autres qui les ont transformées. Et c'est ça, la réalité de la technologie d'aujourd'hui. Donc, si on n'a pas une conscience critique de ces questions, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe, précisément? Eh bien, il se passe que, c'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Benjamin Delattre en introduction, il se passe que le devenir est inéluctable et le devenir est inéluctablement anthropique, mais l'avenir est négantropique. L'enjeu de l'anthropocène, c'est de produire le négantropocène. Je vais y revenir dans un instant. Alors, tout ce que je vous dis là, et il faudrait que je retrouve l'image d'ailleurs, elle est disparue. Voilà. Je n'ai plus de... J'ai pas le mot de passe, excusez-moi. Tout ce que je vous dis là, aujourd'hui, j'essaye de l'investiguer du point de vue de ce que j'appelle une nouvelle critique de l'économie politique. Marx et Engels ont fait une critique de l'économie politique, et beaucoup d'autres, merci beaucoup, beaucoup d'autres l'ont fait derrière eux, soit en s'appuyant sur Marx, soit contre Marx, mais dans tous les cas, Keynes, par exemple, n'était pas un marxiste. Amartya Sen, dont je vous parlais tout à l'heure, n'est pas du tout un marxiste. Mais dans tous les cas, il y a eu une espèce de critique de l'économie politique. Voilà. Cette critique de l'économie politique, elle démarre en fait vraiment ici, avec cet ouvrage qui lance la question de l'économie, je dirais, à la naissance même de la révolution industrielle, qui n'a même pas encore vraiment commencé. Pour moi, le démarrage de la révolution industrielle, c'est 1780, lorsque James Watt, l'inventeur de cette machine à vapeur qui est anthropique, qui consomme du charbon, qui fabrique du CO2, enfin qui produit du CO2 à très haute dose, etc., etc., et qui va prolétariser les gens, c'est-à-dire leur faire perdre leur savoir. Et d'autre part, Matthew Boulton, qui est un entrepreneur anglais, qui au départ a des usines de filature, etc., et qui dit, mais moi je vais créer une industrie de machinerie, on va gagner beaucoup d'argent ensemble, se rencontre donc en Grande-Bretagne, je crois que c'est à Manchester, et finalement engage ce qui va devenir ce qu'on appelle le machinisme industriel. Smith arrive un tout petit peu avant, mais il anticipe ça, il voit venir, parce que si ça arrive, c'est que les éléments sont là pour que ça arrive, donc il anticipe un petit peu, il fait cette fameuse étude, comme vous le savez, de la fabrique d'épingles, et en fait, il anticipe surtout que l'économie industrielle va se développer à travers une hyperdivision industrielle du travail. Voilà. Et donc, à travers un découpage des tâches en tout petits morceaux qui vont conduire à ce que, finalement, Marx et Engels appelleront la prolétarisation. Tout ça passe par Andrew Yeo, dont je parlais tout à l'heure, qui décrit donc les usines comme des automates. Et si je vous parle de cela, de Smith et Yeo, c'est parce que dans un texte qui est mal lu ou presque inconnu, parfois, je m'excuse, je l'ai mis en anglais ici, je n'ai pas retrouvé la version française. C'est un texte de Marx qui s'appelle Les Grundrisse, qui est un. Bon, vous le savez, hein, les Grundrisse, c'est le fondement de la critique de l'économie politique, c'est en fait, c'est présenté en tout cas souvent comme étant le manuscrit du Capital, ce qui n'est pas tout à fait le cas en fait. C'est vrai que quand il a écrit Le Capital, Marx a repris des idées des Grundrisse, qui sont donc des cahiers de notes, en fait, qu'on a reconstitués. Mais il y a des idées dans les Grundrisse qui ne sont pas reprises dans Le Capital. Et en particulier celles qui sont développées là. Qu'est-ce qu'il dit, Marx, dans les Grundrisse qui sont écrits entre 1856 et 1857 ? Il dit que le capitalisme pourrait évoluer vers une automatisation totale. On n'aurait même plus besoin de prolétaires. Parce que, qu'est-ce que fait un prolétaire ? Un prolétaire, c'est quelqu'un qui fait des gestes absolument automatisés, qui sert un automatisme, en fait, qui n'a à peu près aucune initiative, sauf, c'est pour ça qu'on l'emploie d'ailleurs, pour paramétrer un petit peu quelque chose. C'est-à-dire que là où la précision de la machine n'est pas suffisante, on compte sur le système nerveux et musculaire du prolétaire, qui peut être un enfant, par exemple pour mettre une goutte d'huile, voilà, tout le monde connaît ces exemples, ou qui aussi peut être aujourd'hui un médecin, un architecte, voire le président de la Réserve fédérale des États-Unis. Je vous dis cela parce que... J'avais écrit un livre qui s'appelle « La société automatique », dont le premier chapitre commence par l'analyse d'un texte, enfin d'un texte, d'une déclaration plus exactement orale de Alan Greenspan, qui est mis en question le 23 octobre 2008 par une commission sénatoriale à Washington, qui lui dit « Subprimes, Madoff, Lehman Brothers, tout ça c'est vous. Donc expliquez-vous, donnez-nous des explications maintenant. Comment avez-vous pu faire des choses aussi catastrophiques ?» Il répond « Mais vous n'allez pas me prendre comme bouc émissaire. Vous aussi, vous avez adhéré à tout cela. Et tous les prix Nobel d'économie disent qu'il faut tout transformer en calcul. » Et les calculs, les ordinateurs les font beaucoup mieux que nous. Ils vont 4 millions de fois plus vite que nous, les calculs. Donc, le problème, ce n'est pas moi. C'est l'absence de théorie économique de la situation. Voilà ce que dit Greenspan pour se défendre. Et ça, c'est la réalisation de ce que Marx et Engels annonçaient en 1848. Lorsqu'ils disaient, le capitalisme, c'est la prolétarisation. Elle commence par les ouvriers qui perdent leur savoir, ne sont plus des ouvriers, ils sont des prolétaires. Et elle se terminera par les patrons. Tous seront prolétarisés. Ça, c'est très important parce que ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde est prolétarisé. Et d'ailleurs, la première fois que ça s'est posé vraiment comme problème de très grande ampleur à l'échelle géopolitique, c'est ce qui a été montré par Paul Virilio dans Vitesse et politique, c'est lorsqu'en 1972, les états-majors soviétiques et américains ont, chacun de leur côté, appelé leur chef, c'est-à-dire, c'était Brejnev à l'époque et Nixon aux États-Unis, en leur disant, vous savez, vous ne déciderez pas la guerre nucléaire. Elle sera décidée par les algorithmes. Parce que maintenant, les vecteurs, les missiles, etc., sont tellement rapides que nous sommes obligés de confier la décision de la guerre à des interfaces qui ont en entrée des radars et en sortie des missiles. Et donc personne ne décidera la guerre. Elle se décidera toute seule. Autrement dit, ça ne sera pas une décision. Ça sera un processus automatique. C'est à partir de là, c'est ce qu'a montré Virilio, que Brejnev et Nixon ont décidé de négocier. Parce que leurs états-majors ont dit, si vous ne négociez pas, la guerre partira toute seule. Donc il faut absolument trouver des moyens d'arrêter la pression à la guerre de la vitesse, non pas des vecteurs maintenant, mais des algorithmes. Cette guerre de la vitesse des algorithmes, elle s'est continuée dans le champ civil. Aujourd'hui, Carrefour est en faillite, ou presque. Les librairies sont toutes en train de fermer, les bibliothèques avec, etc., etc. Parce que la guerre économique que Donald Trump mène à une échelle extraordinairement dangereuse fait que... La vitesse nous prend tous de vitesse, c'est ce que j'ai appelé la disruption, et que nous ne comprenons plus du tout ce qui se passe. Eh bien, nous ne comprenons pas ce qui se passe parce que nous ne mobilisons pas les bons instruments d'analyse. Les bons instruments d'analyse, selon moi, consistent premièrement à prendre très au sérieux ce texte de Marx, des Grundrisse, que je crois être très mal lu pour le moment, qui a été introduit en France par Tony Negri, à travers la tradition de ce qu'on appelle l'opéraïsme ou le post-opéraïsme, et qui, à mon avis, est une lecture discutable. Je ne vais pas vous dire pourquoi maintenant, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que décrit ce passage des Grundrisse comme une hypothèse sur une évolution possible du capitalisme, eh bien, c'est ce qui s'est concrétisé aujourd'hui. J'ai un peu provoqué une controverse il y a 5 ans, lorsque, au Centre Pompidou, j'ai organisé un colloque dans lequel j'ai proposé de prendre tout à fait au sérieux ce que disaient le MIT, Oxford et l'Institut Bruegel. Enfin, l'Institut Bruegel, à l'époque, n'était pas encore impliqué dans la discussion. Mais Oxford, s'appuyant sur le MIT, prétendait que 47% des emplois aux États-Unis pouvaient disparaître parce qu'ils étaient automatisables. Et précisait qu'ils étaient automatisables parce que totalement prolétarisés. Qui veut dire que les gens qui agissaient dans ces emplois, qu'ils soient ouvriers dans des usines, en fait qui ne sont plus des ouvriers, caissières dans des supermarchés, chauffeurs de camions, mais aussi médecins, lawyers, comme on dit aux États-Unis, où il y a des dizaines de milliers de gens qui passent leur temps à éplucher des arrêts, etc., pour faire des procès, comme vous savez, c'est une industrie, le procès en Amérique du Nord, eh bien tous ces gens-là étaient licenciables, parce que les algorithmes seraient meilleurs qu'eux pour faire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, la même chose? Les mêmes calculs. Mais ces calculs ne sont pas du savoir. Et là, maintenant, j'entre dans le sujet vraiment, l'avenir du savoir. Qu'est-ce que le savoir? Eh bien, le savoir, c'est ce que Marx dit là, c'est ce que, par exemple, les gens qui n'ont plus besoin d'être employés pourraient développer. C'est l'utopie, hein, qu'on retrouve à la fin du Capital, d'ailleurs. Voilà, tout le monde pourrait faire ce qu'il veut, puisque les automates pourraient travailler. On n'aurait plus besoin... Alors, travailler ou opérer? Qu'est-ce que c'est que le travail? Voilà une vaste question. Pour moi, le travail, ce n'est pas du tout l'emploi. Le travail dont on nous dit depuis des siècles qu'il représente le trépanum, la souffrance, la punition, le péché originel, et tout ça. Le travail, moi, c'est ce dont, si on m'empêchait de faire mon travail, je ne survivrais pas. Le travail, c'est ce qui constitue le sens de ma vie. Mon travail, qui n'est pas du tout mon emploi. Le travail, c'est ce qui fait que je suis en mesure, à une échelle qui peut être microscopique, par exemple un match de badminton, de changer le monde, voilà. De faire ce que jamais aucun joueur de badminton n'avait fait avant moi. Ça, c'est le travail. C'est ce que je fais quand j'ai un enfant qui a un profil psychologique toujours absolument singulier, les enfants sont toujours absolument singuliers, que personne ne saurait faire avec, sauf que moi, je suis sa mère ou son père, et moi, je vais savoir faire avec. Je vais développer le savoir parental, voilà, qui passe par l'affection, la sublimation. C'est ce qui fait le savoir que face à une situation absolument singulière et imprévisible, eh bien, je vais être capable de produire une réponse absolument singulière et imprévisible. Alors ça s'appelle le travail de Pablo Picasso, d'Évariste Galois, ou du père ou de la mère de famille, voilà, qui s'occupe par exemple de son enfant qui a été intoxiqué par les smartphones, qui est un quasi-autiste. Je vous dis ça parce que, en Seine-Saint-Denis, Benjamin Delarde vous en a un tout petit peu parlé, nous développons des travaux pratiques, si je puis dire, de questions de ce genre. Nous avons créé une clinique contributive où nous aidons nous essayons d'aider des parents à se soigner avec leurs enfants de l'intoxication au smartphone qui fait des ravages absolument incommensurables, d'une extraordinaire gravité, surtout chez les petits-enfants, mais pas seulement, parce que ça commence par les parents. Et qui font que, par exemple, vous avez des enfants aujourd'hui avec lesquels je travaille, qui ont 2-3 ans, qui sont fichés, si j'ose dire, fichés autistes. On considère qu'ils sont autistes, ils ne parlent pas, ils ne regardent jamais dans les yeux, ils ont des comportements autistiques, comme on dit. Mais les médecins avec qui je travaille me disent non, ce ne sont pas des autistes, ce sont des victimes du smartphone. Il y en a des millions dans le monde comme ça. Et ça va être de pire en pire. Ça a commencé il y a quelques années. C'est une épidémie. Et si ça vous intéresse, je vous invite à Cerisy-la-Salle, c'est pas très très loin d'ici. Nous en reparlerons jeudi soir. Nous allons présenter avec une pédopsychiatre, un biologiste, un philosophe anglais, le projet de la clinique contributive et comment nous travaillons avec des parents, avec des méthodes qui sont les méthodes qui relèvent de ce que nous appelons la recherche contributive, où les parents font de la recherche avec nous. Je vais y revenir dans un instant. Je m'aperçois qu'il faut que je fasse attention au temps, qu'on ait le temps de discuter, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ces questions dont je vous parle là sont assez complexes parce qu'elles nous amènent, elles nous obligent à revenir vers des fondements dans presque toutes les disciplines, y compris les mathématiques. En 1926, ce grand chimiste qui s'appelle Vladimir Vernadsky et qui va être membre de l'Académie des sciences soviétiques, qui est aussi un ami de Teilhard de Chardin, qui va venir à Paris, qui va rencontrer beaucoup de gens, dont quelqu'un d'autre dont je vais vous parler dans un instant, qui est Alfred Lotka, le biologiste américain. Vernadsky, en 1926, dit, moi je ne suis pas biologiste, je suis chimiste. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe sur Terre, et j'essaie de développer une géochimie, il appelle ça comme ça, une géochimie. Il dit, cette géochimie, elle est tout à fait spéciale, elle ne relève pas de la physique simplement. Elle relève de la physique en partie, évidemment, puisque c'est de la chimie. Il y a probablement des enseignants de physique-chimie ici. Mais il ajoute, c'est de la biochimie aussi. Par exemple, sur Terre, il y a des milliers de milliards ou de milliards de milliards de tonnes de molécules qui ont été produites par le vivant. Par exemple, les belles pierres de Caen, eh bien, ce sont des dépôts moléculaires en fait, de vivants, de coquillages, de squelettes, etc., etc. Et de très nombreuses molécules qu'on trouve sur Terre, on ne les trouve que sur Terre, parce qu'elles ont été produites par le vivant. Certaines en énorme quantité, d'autres en quantité beaucoup plus rare. Et cela l'amène à poser que sur Terre, il est apparu il y a 4 milliards d'années, avec les bactéries, des processus chimiques tout à fait inédits qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'univers et qu'on ne peut pas penser avec les catégories de la physique. Pas seulement avec les catégories de la physique. Et à la fin de son livre, que je vous recommande de lire aussi, il est extrêmement étonnant ce livre, il a été aussi tout à fait réprimé. Moi je l'ai cité il y a une trentaine d'années dans un programme de recherche que j'ai présenté au ministère de la Recherche quand je créais un laboratoire à l'UTC. Et on m'a dit, ah non, Vernadsky, il ne faut pas s'y référer, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, non. Et qu'est-ce que dit Vernadsky dans ce texte qui n'est pas sérieux? Eh bien, il dit, la biosphère s'est transformée en technosphère et ça pourrait poser de très très gros problèmes. Et il ajoute, vous devriez lire, il enjoint ses lecteurs à lire deux personnes, Alfred Whitehead, mathématicien, physicien et philosophe anglais, et Alfred Lotka. Alfred Lotka, qui... en 1945, dans cet article, pose que, après avoir beaucoup travaillé, Lotka, au départ, c'est un mathématicien qui s'est spécialisé en biologie, qui est devenu biologiste. Il est connu dans le champ de la biologie parce qu'il a écrit une équation qui permet de décrire des relations de grande masse de population à travers des relations de proie et de prédateur. Il est très connu. Mais ce texte-là est quasiment pas connu. On y fait, pendant très longtemps, on n'y faisait absolument pas référence. Moi-même, j'ai trouvé par hasard dans un autre texte de Nicolas Georges-Courogan, qui est un économiste, lui aussi mathématicien d'origine, qui fut l'assistante de Joseph Schumpeter et qui publia en 1971 un texte qui s'appelle « The Entropy Law and the Economic Process », toujours pas traduit en français, et dans lequel il dit à Schumpeter « Formidable votre modèle destruction créatrice, sauf que il repose sur la physique de Newton. Or, le monde n'est pas newtonien. Il est thermodynamique. Donc, votre modèle ne tiendra pas la route dans la durée. » Au même moment, le MIT publie le rapport Meadows, qui dit la même chose dans des termes tout à fait différents. C'est republié sous le titre « Halte à la croissance ». Et Arnold Toynbee publie ce qui a été traduit en français par « L'aventure humaine » et dit la même chose en tant qu'historien. Arnold Toynbee, je vous recommande de le lire. Premier chapitre s'appelle « La biosphère ». On connaît très très bien Vernadsky. Il dit, si on ne fait rien, 1971, à brève échéance, la vie est condamnée sur Terre. Ces questions ne sont pas du tout nouvelles. Elles ont été posées à très très hautes échelles. Le Club de Rome, le MIT, Harvard, et elles sont refoulées. Elles font l'objet de déni. Alors, le plus grand des négateurs de tout cela s'appelle Donald Trump. Mais elles sont aussi ce qui s'est traduit dans les institutions par le fait qu'on n'enseigne pas Vernadsky, on n'enseigne pas la thermodynamique, sous prétexte que c'est trop compliqué. Voilà. Et surtout, on ne lance aucun programme de recherche dans ces domaines. Et c'est extrêmement grave. Si je vous en parle, c'est parce que Lotka, dans ce texte-là, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, pose qu'à partir de... une époque récente, il y a à peu près 3 millions d'années, quelque chose advient dans l'histoire du vivant et dans la biosphère qui fait qu'un être vivant, vous et moi, se met à produire des organes artificiels. Ce que Lotka va appeler des organes exosomatiques, des organes qui sont en dehors du corps. Et dont il va dire, moi je suis biologiste, et ce que je peux vous dire, c'est que la biologie est incapable de prescrire ces organes. Or, la réalité humaine, ce n'est pas du tout les organes biologiques. Les organes biologiques sont presque secondaires. La preuve, c'est qu'on peut les remplacer. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de rein ou qui ont un cœur, mais qui n'est pas le leur, comme Jean-Luc Nancy, par exemple, un cœur artificiel, enfin un cœur greffé. Et comme vous le savez, on travaille aujourd'hui au cœur artificiel. Et il y a des gens dans les hôpitaux aujourd'hui qui sont avec des organes artificiels. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai dans cet œil-là un cristallin artificiel, voilà, qui fait que aujourd'hui, quand j'enlève mes lunettes, je vois mieux avec cet œil que je ne voyais à ma naissance, parce que on m'a modifié mon œil. Et ça, on m'a mis un organe exosomatique réendosomatisé. Qu'est-ce que je veux vous dire en vous disant cela? Ce que vous voyez là, c'est un être qui apparaît il y a 3 millions d'années. On l'appelle l'Australopithèque, voilà, plus ou moins. Enfin, la terminologie a changé. Bon. En tout cas, Leroy Gourhan l'appelle plus exactement le zingentrope. Voilà. Et c'est un être qui se dote d'organes artificiels et qui fait que progressivement, la lutte pour la vie telle qu'elle est réglée par la biologie compte de moins en moins. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Stephen Hawking, qui était absolument, qui marchait pas, qui parlait pas, enfin, il y avait à peu près rien de fonctionnait en lui, sauf son cerveau. Eh bien, il dirigeait une entreprise de 50 personnes, parce qu'il était le chef d'orchestre de 50 personnes qui travaillaient pour lui en permanence à travers des réseaux d'ordinateurs. Et il était considéré, à tort ou à raison, à mon avis à tort, parce que moi je ne le considère pas comme un très grand physicien, mais enfin il est considéré comme un des plus grands musiciens de son, physiciens de son temps. C'est un être archi-exosomatisé. Il y a d'ailleurs une anthropologue qui s'appelle Hélène Mihalet qui a écrit un livre sur lui, qui l'a rencontré, etc., qui vous explique ça assez précisément, comment ça fonctionne. Si je vous en parle, c'est parce que ce que nous dit Lotka à propos de ce qui advient là, il y a 3 millions d'années, eh bien, il dit en 1945, il vient d'étudier des rapports sur les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur les populations civiles européennes. On est à Caen, là, on pourra en parler vraiment très très localement. Il dit, mais c'est catastrophique ce qui s'est passé. C'est catastrophique, c'est-à-dire le développement humain. Alors, Paul Valéry disait la même chose déjà en 1919, après la Première Guerre mondiale. Le développement humain a abouti à la destruction de l'humain. Et il dit, ça va être de pire en pire. Et en particulier, il le dit là, parce qu'il souligne que l'espèce humaine, c'est ce qui est capable d'évoluer à très 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 grande vitesse. Et comme on le verra dans un instant sur un autre extrait, à travers ce qu'il appelle donc l'évolution exosomatique, c'est ce qui est entouré en vert là, il accélère son entre guillemets adaptation, mais en fait il se désadapte à lui-même. Et à partir de là, ce que dit Lotka, c'est que la fonction qui va permettre de lutter contre ça, c'est le savoir. Vous connaissez certainement Georges Canguilhem, qui est un auteur absolument majeur du XXe siècle, surtout pour une espèce. Georges Canguilhem, c'est un très très grand penseur du savoir. Georges Canguilhem, qui était philosophe, qui a décidé d'étudier la médecine, parce qu'il disait, si je veux faire de la bonne philosophie du vivant, il faut que je devienne médecin. Donc, il ne faisait pas dans la demi-mesure. Bon, il était aussi, à l'époque, quand il a écrit sa thèse, dans un hôpital militaire où il coupait des jambes. Je dis ça parce que, voilà, il en a été absolument malade d'avoir à couper des jambes. Enfin, il a eu une expérience de ce que c'est que la médecine très, très, très pratique. Et Georges Canguilhem dit dans La connaissance du vivant, tout à fait au début, c'est le premier chapitre, pardon, c'est La connaissance de la vie, la biologie, c'est une fonction de survie, une forme de vie technique. Voilà. Les êtres vivants humains ont une forme de vie technique et cette forme de vie technique requiert le savoir biologique pour vivre. Les animaux n'ont pas besoin d'un savoir biologique, mais nous en avons besoin. Alors ce savoir biologique, ce n'est pas forcément la biologie, peut-être que la pratique Stanislas Delanne et Alain Prochian au Collège de France. Le chaman a un savoir biologique. L'agriculteur aussi a un savoir biologique. C'est de ça dont on parle. Ce que j'appelle le savoir, moi, ce n'est pas forcément le savoir académique. C'est le savoir qui permet de faire avec l'imprévu que provoque la technique en tant qu'elle est toujours à la fois productrice de négantropie, comme tous les organes vivants que décrivait Erwin Schrödinger, par exemple, il dit un organe vivant, le cœur, le foie, la peau, tout ça, dans un organisme, ça sert à lutter contre l'entropie. Par exemple, le foie permet de stocker, etc. Et en principe, un organe vivant est toujours orienté contre l'entropie, mais les organes artificiels, ce n'est pas le cas. Les organes artificiels, ils sont à la fois négantropiques et anthropiques. Et donc, et ça c'est ce que dit non pas Alfred Lotka, mais Nicolas Georges Kouragan dit la fonction de l'économie, c'est de se substituer à la biologie qui ne permet pas de faire face à ces organes artificiels. Et pourquoi faire? Pour diminuer leur caractère anthropique et augmenter leur caractère néganthropique. Par exemple, avec les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui massivement anthropiques, et qui détruisent les capacités néganthropiques, c'est-à-dire les savoirs. Alors, je vais accélérer parce que je m'aperçois que il faut que j'arrive quand même à l'essentiel. Je soutiens, moi, avec un groupe de gens qui s'appelle Ars Industrialis, Pharmacon, l'Institut de Recherche et Innovation, et aussi d'autres gens maintenant, parce que j'aime bien agréger toutes sortes de gens pour travailler ensemble, que nous devons quitter l'Anthropocène, l'ère Anthropocène, et entrer dans l'ère Néganthropocène. L'ère Néganthropocène, c'est une ère dans laquelle il faut tirer parti de l'automatisation. Pourquoi faire? Pour développer une économie contributive, à laquelle s'est référé tout à l'heure Benjamin Delattre, économie contributive qui repose sur l'idée que, eh bien oui, des emplois vont disparaître, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a un consensus. Il y a 2 ans, l'OCDE disait 9% disparaîtront, après avoir dit le contraire pendant des années. Et aujourd'hui, l'OCDE a revu ses chiffres, et c'est 14% maintenant, selon l'OCDE. Voilà, 14% d'emplois perdus en France, c'est la guerre civile. Ça, vous pouvez en être certain, on n'en est déjà pas très loin de la guerre civile, mais si on rajoute 14% de gens qui n'ont pas d'emploi, tout s'effondre, parce que le système n'est plus viable du tout. Alors ça, c'est une moyenne mondiale, 14% de perte d'emploi. Donc nous allons vers une situation macroéconomiquement absolument insupportable. Ça veut donc dire qu'il faut changer la macroéconomie. Et cette macroéconomie, elle doit apprendre à valoriser l'anti-entropie. Qu'est-ce que c'est que l'anti-entropie que j'écris là avec un A et un H ? L'entropie, ben vous le savez si vous êtes géographe, l'anthropisation par exemple, qu'est-ce que c'est ? Les milieux anthropisés, ce sont des milieux qui ont été très très transformés par l'être humain, qui peuvent être magnifiques d'ailleurs, les rizières par exemple chinoises en espalier dans les montagnes, c'est fabuleux, mais en même temps ça a des coûts en termes d'équilibre des biocènes, etc., etc. Et ça a des effets à long terme qui peuvent être très problématiques. L'anti-entropie, c'est ce qui est, c'est pas simplement la nég-entropie, comme je l'écris dans l'ère nég-anthropocène, mais c'est ce qui permet au savoir, à un moment donné, non seulement de maintenir une structure, ça c'est la nég-entropie c'est l'organisation sociale. Donc par exemple, maintenir en l'état l'éducation nationale, maintenir en l'état la République française, maintenir en l'état l'ESP de Caen, etc., etc. C'est le rôle des pouvoirs de maintenir en l'état, c'est-à-dire de faire que dure l'institution. Mais une institution n'est vivante que si elle est capable de produire en son propre sein une anti-entropie qui va lutter contre ce pouvoir en produisant quoi ? Du savoir. Et ce savoir, il vient remettre en question les règles du pouvoir. Ça a commencé, je dirais, à être une organisation sociale explicitement faite comme ça, dans la polis grecque. La politeia grecque, c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qui pose en droit la possibilité de remettre en cause le droit en permanence, pour autant qu'on est capable de l'argumenter avec des arguments qui prennent comme modèle canonique la démonstration géométrique. Ça ne veut pas dire que tous ces arguments sont démontrables, mais ça veut dire qu'ils doivent coller le plus possible à un modèle de vérité, qui est la vérité du débat contradictoire, c'est-à-dire la critique par les pairs. Et c'est comme ça, c'est encore là-dessus que repose aujourd'hui le modèle juridique actuel. Que le modèle automatisé par le calcul aux États-Unis veut supprimer. Et pas simplement aux États-Unis, en France aussi. Vous avez aujourd'hui aux États-Unis des juges qui, si jamais ils ne suivent pas les prescriptions des algorithmes pour la peine à donner, doivent le justifier ensuite. Et s'il s'avère que leur décision a été erronée, ils peuvent être remis en question dans leur statut de juge. C'est extraordinairement grave. C'est-à-dire que c'est un remplacement des juges par les algorithmes. Si vous avez eu un petit peu connaissance de ce que dit Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure, vous savez qu'Emmanuel Kant, qui a combattu Leibniz, et qui a combattu Leibniz en montrant que Leibniz faisait une confusion entre l'entendement et la raison. Leibniz qui croyait que tout pouvait être réduit, c'était un très grand mathématicien, donc il avait une tendance à donner à l'entendement une possibilité spéculative absolument infinie, et donc de réduire le spéculatif au calculable. Kant a dit pas du tout. L'entendement c'est une chose, c'est une faculté analytique. Mais la raison, c'est une faculté synthétique, ce n'est pas calculable. C'est une décision. Ça a été repris, cette problématique, par Whitehead au XXe siècle, qui est une sorte de néo-kantien, qui dit la fonction de la raison, de prendre des décisions, c'est de produire des bifurcations dans un monde anthropique. Évidemment, Emmanuel Kant était newtonien, il ne connaissait pas l'entropie. L'entropie n'a commencé à apparaître que 20 ans après sa mort, sous une forme d'ailleurs encore très embryonnaire. 1824, la théorie du feu de Sadi Carnot. En revanche, Whitehead, c'est un physicien avant tout, et c'est un physicien qui a complètement intégré cette dimension, et il dit que la fonction de la raison, c'est de lutter contre l'entropie que produit l'être humain. Il ne le dit pas comme ça exactement, c'est mon interprétation. Voilà. Et ça, vous le trouverez dans un livre qui se lit très très bien aussi. C'est un des très rares livres de Whitehead qui est vraiment lisible. Ça s'appelle « La fonction de la raison ». Et je vous recommande vraiment de le lire. C'est un livre extrêmement important. Alors, aujourd'hui, nous, quand je dis nous, je parle du groupe que j'évoquais tout à l'heure, nous essayons de développer une économie de la négantropie. c'est-à-dire de lutte contre l'entropie, de lutte contre les effets anthropiques de l'être humain, de son activité. Non pas pour dire on va rentrer dans la décroissance, on va abandonner les smartphones, etc. Non. Par exemple, je travaille en ce moment avec ses parents, ses puéricultrices, les assistantes de puériculture, dans un quartier de Saint-Denis qui s'appelle le quartier Pierre-Sémard, à essayer de soigner, de prendre soin nous-mêmes, de nous tous, qu'on soit médecin, chercheur, puéricultrice, enfant, parent, de nous-mêmes à l'époque du smartphone. Et ce n'est pas du tout en rejetant les smartphones. Nous faisons tout un travail qui m'a conduit à demander un rendez-vous à la direction de la recherche d'Orange pour dire essayons d'inventer des nouveaux types de réseaux sociaux, des nouveaux types de smartphones, et où on ne va pas simplement mettre un automate qui vous dit ah, vous avez, ça fait 3 heures que vous êtes sur je ne sais pas quel réseau social, peut-être vous devriez arrêter, parce que ça c'est ce que commencent à nous proposer certains services. Non, ce n'est pas du tout ça. De dire comment on pourrait inscrire la négantropie à l'intérieur des structures de données des smartphones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer des champs incalculables qui ne peuvent être que des objets de discussion et de confrontation pour des juges, pour des citoyens, pour des parents, entre les parents et les enfants, etc., et qui ne sont pas traitables par des algorithmes et qui ont été considérés comme tels non traitables par des gens qui sont des gens qui ont du savoir. Par exemple, un savoir de footballeur. Je dis ça parce qu'hier, j'ai pensé beaucoup à ce que disait, en écoutant Benjamin Delattre, à ce qu'à une époque, quand j'étais directeur de l'INA, j'avais essayé de faire avec Canal+, qui avait installé 36 caméras au Stade de France à Saint-Denis pour analyser des matchs. Et la Fédération française de football utilisait ces trucs. Il y avait eu un accord entre les entraîneurs de foot et Canal pour créer des clubs d'analyse. Très, très, très intéressant, ça. Très, très intéressant. Et moi, j'avais proposé à Lionel Jospin de repenser toute la télévision comme ça. Et je me suis fait virer. Je me suis fait virer parce que je considérais que la télévision, il fallait arrêter de la soumettre au pouvoir anthropique, consumériste, et qu'il fallait commencer à attaquer le problème que posait George Scourgen, le rapport Meadows, etc. Sérieusement, avec la télévision, c'est fait pour ça, la télévision. C'est fait pour quoi? Ben, c'est fait pour transmettre du savoir. Et aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout ça. Mais moi, j'ai connu la télévision quand j'étais petit. Moi, la première fois que j'ai vu une pièce d'Eschyle, c'était la télévision. C'était la télévision du général de Gaulle, que par ailleurs j'ai beaucoup combattu, parce que j'étais communiste autrefois. Mais en même temps, voilà, la télé à cette époque-là, c'était fabuleux. J'ai été invité un jour par Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture, à Avignon, au Festival d'Avignon. Il voulait parler des industries culturelles. Il m'a proposé de faire une conférence. Et j'ai commencé ma conférence en lui proposant de regarder une émission qui a été diffusée en 1958 dans Lecture pour tous par Pierre Dumayet. C'était à 20h30. Et qui voyait à 20h30 à la télévision? Georges Bataille, qui présente la littérature et le mal. Ben moi, je regardais ça, mes parents regardaient ça. Mes parents, c'est des prolos, mais ils regardaient ça, ils trouvaient ça très, très intéressant. Voilà. Et donc, on ne pensait pas du tout à cette époque-là que parce que vous n'êtes pas dans le 5e arrondissement, etc., etc., vous n'êtes pas capable de comprendre quoi que ce soit, pas du tout. On ne pensait pas du tout ça. André Malraux, par exemple, pensait que la télévision pouvait permettre. Et d'ailleurs, il y avait, vous le savez, hein, une espèce de compromis entre les gaullistes et les communistes parce qu'ils partageaient cette conviction. Voilà. Et c'est pour ça que la France, à cette époque-là, n'allait pas trop mal, à mon avis. En tout cas, si je vous le dis, c'est parce que je pense que, par exemple, lorsque le cabinet de Jospin m'a viré de l'INA, et en l'occurrence, c'était un monsieur qui s'appelle David Kessler, voilà, que je connaissais bien, parce qu'en plus, je l'avais connu quand il passait la grègue. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce sont des gens qui avaient renoncé à lutter contre l'entropie. Et si ça va si mal dans le monde actuel, c'est parce que tout le monde a renoncé à cette lutte. Eh bien, il faut réarmer cette lutte. Alors, pour cela, je crois que j'aurais voulu vous parler, mais il va falloir que je m'arrête pour qu'on ait le temps de discuter. J'aurais voulu vous parler un petit peu de Marcel Mauss, d'un texte qui a été publié dans le tome 3 des œuvres de Marcel Mauss aux éditions de Minuit, qui a été republié depuis au PUF, et dans lequel Marcel Mauss dit il faut reconcevoir les rapports entre les nations à travers ce qu'il appelle une internation. Une internation qui serait capable de faire que les nations ne disparaissent pas, qu'elles ne régressent pas dans le nationalisme, etc., qu'elles coopèrent dans un contexte qui, dit Mauss, va être transformé de plus en plus par la technologie, etc. Il le voit très très bien venir, tout ça, hein, Marcel Mauss. Et alors, si je vous en parle, parce que j'ai créé un groupe qui s'appelle Internation Genève 2020, qui est en train, en ce moment, d'essayer de répondre à Antonio Guterres, à l'ONU, pour lui dire, nous, on a des propositions à vous faire. On voudrait créer une internation, et cette internation, elle développerait, avec des pays candidats, des expérimentations territoriales pour développer une économie de la négantropie, une économie de la négantropie que nous testons nous-mêmes en Seine-Saint-Denis, dans des domaines qui sont la mécanique, l'industrie du bâtiment, l'alimentation, etc., et où il est tout à fait possible de développer des savoirs nouveaux, de cuisine, de construction, etc., avec des gens qui ne sont plus du tout des prolétaires, mais ce que j'appelle moi dans le bâtiment, par exemple, des nouveaux compagnons du bâtiment, qui apprennent, par exemple, à construire des bâtiments en utilisant l'argile qui est en très très grande quantité aujourd'hui en Île-de-France, et qu'on transporte en camion pour dans des déchetteries, parce qu'on la considère comme un matériau vil, alors que l'argile a des qualités thermiques extraordinaires et qu'on pourrait totalement transformer les technologies de construction à condition d'avoir de bons ouvriers. Et des ouvriers aidés par des robots, etc. Ben, comme il se trouve qu'on est en train de développer des robots dans le monde du bâtiment, ben, réinventons l'industrie. Réinventons l'industrie du bâtiment. Et en permettant à des gens, par exemple, de devenir des grands spécialistes d'une technique de bâtiment, parce qu'ils cultiveront un vrai savoir de cela à travers un revenu contributif, et qui est un revenu conditionnel, qu'ils ne peuvent garder qu'à la condition qu'ils trouvent régulièrement un emploi intermittent. Voilà. Je travaille en ce moment sur ce territoire de pleine commune en faisant travailler des banques, des entreprises, des pouvoirs publics, des associations, des habitants, etc., sur 6 thèmes, qui sont donc ceux que je vous ai évoqués, plus l'énergie et le développement urbain, où nous avons identifié des potentiels d'économie négantropique. Voilà. Qui permettent de développer une économie contributive et d'ouvrir un espace pour la lutte contre la baisse de l'emploi, mais aussi, surtout, contre l'entropie. Ça, je pense que ça peut être extraordinairement mobilisateur pour la jeunesse. Et par ailleurs, j'essaye de convaincre aujourd'hui les autorités, si je puis dire, de mettre en place un dispositif que j'ai conçu avec le rectorat de Créteil, avec une chargée de mission en particulier, qui est un dispositif qui tente de répondre à une demande qui nous a été faite par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts disant on investit en ce moment des milliards dans le village olympique autour de Saint-Denis, plus le Grand Paris, en fait, ça fait 13 milliards d'investissements sur 10 ans dans la région. Mais comment est-ce que cela va bénéficier aux habitants? Les JO, ça produit souvent de la gentrification, de la smallisation, etc. De la mollisation, des shopping malls, toutes sortes de choses. Ça bénéficie très rarement aux habitants. Alors, ce que nous avons proposé, nous, c'est de dire on va penser la reconversion de tout ce village olympique, puisque la grande question, c'est sa reconversion après les JO, et on va la penser avec les élèves, en utilisant Minecraft et en mettant sous Minecraft les données de Building Information Modeling, qui aujourd'hui sont la norme numérisée de gestion des chantiers, et pour faire en sorte que les élèves, leurs parents, leurs profs, etc., prennent de l'avance sur le BIM, et que ce soit ces gamins-là qui soient eux-mêmes capables non seulement de dire voilà comment nous imaginons avec nos parents, les habitants, l'évolution de ce territoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut les suivre forcément, mais en tout cas, c'est en faire de vraies parties prenantes, qui connaissent vraiment de quoi ils parlent. Nous travaillons avec les architectes hein, sur ce sujet-là, et pour qu'en puisse certains d'entre eux puissent faire le travail de reconversion en ayant acquis des nouvelles techniques qui fait d'eux des nouveaux compagnons du bâtiment. Voilà, c'est un exemple que je vous donne avec la clinique contributive pour montrer qu'il y a des choses très pratiques et très concrètes à faire. Alors j'aurais voulu vous parler, mais je ne le ferai pas à nouveau, de l'OTCA, de la biosphère. Bon, j'aurais voulu vous parler du rôle du savoir selon l'OTCA, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Aussi, vous parlez d'Amartya Sen et de Karl Marx. Amartya Sen a montré que les habitants du Bangladesh en 1972, ça c'est le Bangladesh, ils n'ont pas une vie très facile, les habitants du Bangladesh, eh bien en 1972, en pleine famine, ils ont une meilleure espérance de vie que les habitants de Harlem, au même moment. Harlem étant un quartier pauvre de Manhattan, mais tout de même Manhattan, c'est-à-dire ici il y a l'eau courante, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a la police, il y a tout ce que vous voulez. Il y a aussi de quoi manger. Là, il n'y a rien. il n'y a pas de police, il n'y a pas d'égout, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de quoi manger, eh bien, l'espérance de vie des hommes du Bangladesh à cette époque-là est supérieure à celle de Harlem. Pourquoi ? Il faut lire Amartya Sen avec Karl Marx. Parce que ces gens de Harlem sont très prolétarisés, ils ont perdu tout leur savoir de base, donc ils ont d'énormes problèmes de santé, diabète, cholestérol, drogue aussi, bien entendu, etc. Tandis que Amartya Sen l'a montré en 1976, les habitants du Bangladesh ont maintenu des savoirs. Ils ne se sont pas prolétarisés, donc ils ont développé ce qu'on appelle aujourd'hui une résilience tout à fait exceptionnelle. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il faut affronter le néganthropocène à travers cela. Pour cela, il faut repenser le savoir à sa base, et je dirais le savoir, il faut le repenser de trois façons nouvelles. Premièrement, il faut produire du savoir à très haute vitesse. Pour ça, il faut développer une méthode que nous appelons la recherche contributive, qui permet de créer des collectifs de savoir qui transfèrent extrêmement vite vers la société et qui expérimentent très très vite et qui font du retour avec des boules de rétroaction positives très rapides sur des territoires. Deuxièmement, il faut introduire la question de l'entropie et de l'énanthropie au cœur de tous les savoirs, parce que ça concerne tout. En linguistique, par exemple, aujourd'hui, si vous êtes linguiste et que vous étudiez l'évolution des 500 idiomes véhiculaires de la planète, et bien avec Google et tout ça, ils vont vers l'entropie. Ça a été montré par un mathématicien qui est Frédéric Kaplan. Et moi, je ne connais aucun linguiste qui travaille là-dessus en France aujourd'hui. Ce qui me paraît quand même assez problématique. Voilà. On nous parle de Saussure, de Chomsky et tout ça, mais il faudrait peut-être s'intéresser à la réalité de la langue aujourd'hui. Voilà. Et c'est comme ça parce qu'en fait, c'est pas de la faute des linguistes, c'est parce qu'on leur demande pas de travailler là-dessus. On leur demande de surtout pas travailler là-dessus. Et ça, c'est vraiment très très grave. La troisième condition, c'est de repenser la place du numérique dans le savoir. Le numérique, c'est pas un simple moyen de communication, c'est pas un simple dispositif qui permet, par exemple, de faire de nouveaux modèles pédagogiques, etc. Le numérique change tout. Par exemple, en nanophysique, si vous n'avez pas de numérique, vous ne pouvez pas faire de la nanophysique. Pourquoi ? Parce que la nanophysique actuelle, elle travaille avec des simulateurs. Voilà. On vous montre des nanostructures, etc. Mais vous le savez, à l'échelle nano, en fait, il n'y a rien de perceptible. Donc, tout ce qu'on vous montre, les images de nanostructures, par exemple, de nanotubes, comme on en a parlé hier, je ne sais plus avec qui, en fait, ce sont des artefacts produits par les ordinateurs. Les ordinateurs, aujourd'hui, jouent un rôle absolument fondamental dans pratiquement toutes les disciplines. Et ça suppose de repenser le rôle non pas seulement des ordinateurs, mais de l'écriture dans la construction de la géométrie, par exemple, dont nous parlions hier. Ça suppose de repenser le rôle de la technique et des organes exosomatiques dans toutes les formes de savoir. Ce qu'on a fait, ce qu'on a refoulé depuis 2500 ans, depuis l'origine de l'Occident, pour des raisons que je ne vais pas commenter maintenant.